Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas dans le texte, ne cherchez pas. Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Je cite: Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Je ferme les guillemets. Le droit à la protection de la vie privée est une notion aujourd'hui profondément ancrée dans notre mentalité, n'est-ce pas? Le développement de cette notion tient sans doute à des raisons qui étaient bonnes à l'origine, hein. Mais aujourd'hui, l'idée de la vie privée, entre guillemets, l'idée de la vie privée, nourrie de notre individualisme exacerbé, a peut-être été sacralisée. Cette idée a peut-être été sacralisée au point de devenir un rempart absolu derrière lequel, en fin de compte, on peut cacher ce qu'on veut. Il existe un site internet dont le titre est vieprivée.com. Vieprivée.com et le sous-titre: Parce qu'elle ne regarde que vous. Ma vie privée ne regarde que moi. Hein? Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? En réalité, cette affirmation est un mensonge. Et c'est un mensonge pernicieux dont les répercussions sont grandes dans la vie chrétienne en particulier. Nous pensons naturellement qu'en ce qui concerne notre vie privée, nous n'avons des comptes à rendre à personne. C'est normal, ça ne regarde que moi. Mais le texte que nous allons lire, dans un instant, va nous aider, je l'espère, à nous rendre compte que Dieu n'a pas du tout égard aux frontières de notre vie privée. Dieu n'a pas du tout égard aux frontières de notre vie privée. En fait, c'est même pire que ça. C'est même pire que ça. Dieu a conçu l'histoire du monde, tenez-vous bien, pour que les chrétiens occupent le devant de la scène, pour que leur vie soit exposée au feu de la rampe. Et cela pour le meilleur comme pour le pire. Ce texte va peut-être provoquer en nous un véritable changement de perspective ce matin. Tenez-vous bien, dans ce texte, Dieu nous invite à vivre, en tant que chrétiens, comme si nous étions le centre de l'attention du monde entier. Ce texte nous invite à vivre, en tant que chrétiens, comme si nous étions le centre de l'attention du monde entier. En fait, que vous le vouliez ou non, et que vous le sachiez ou non, on vous observe. On vous observe jusque dans votre vie privée. Et ce texte nous invite à en prendre conscience et à mesurer les enjeux de cette réalité qui est voulue par Dieu. Alors lisons le texte et voyons comment le prophète Amos en parle. Amos chapitre 3, on va lire 3 versets, versets 9, 10 et 11, d'accord ? Amos 3, je commence au verset 9. Faites retentir votre voix dans les donjons d'Asdod et dans les donjons du pays d'Égypte et dites: Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles, que d'oppression en son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, oracle de l'Éternel. Ils entassent dans leurs donjons les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici un ennemi. Il investit le pays. Il te dépouille de ta force et tes donjons sont pillés. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes totalement dépendants de toi et de ton Saint-Esprit pour bien comprendre ce que tu veux nous dire à travers ce texte, en particulier ce matin. Alors s'il te plaît, toi-même, rends-nous disponibles, ouvre nos cœurs, ou rends-nous attentifs à tout ce que tu voudras bien nous dire pour notre édification ce matin. Amen. Dieu nous invite à vivre en tant que chrétiens comme si nous étions le centre de l'attention du monde entier. Alors la première parole que livre Amos dans ce passage, c'est une véritable provocation, vous l'avez peut-être remarqué. Dieu fait comprendre à son auditoire, le peuple d'Israël, qu'il compte prendre les païens à témoin de la corruption de son propre peuple. Dieu compte prendre les païens à témoin de la corruption de son peuple. Dieu envoie un appel solennel aux pires ennemis d'Israël. Asdod, c'est une ville des Philistins. Et cet appel doit retentir jusque dans les donjons du pays d'Égypte. Donc les Philistins et les Égyptiens sont appelés par Dieu pour qu'ils viennent assister à ce qui se passe à Samarie. Donc vous imaginez la scène, ils doivent venir en haut des montagnes et contempler ce qui se passe dans la ville en contrebas, à Samarie. Et ils doivent venir et regarder et constater l'incroyable injustice sociale qui règne dans le royaume d'Israël. La situation est tellement grave que même les païens seront d'accord pour dire qu'il y a un problème. Dieu prend les païens à témoin de la corruption de son peuple. Par ses paroles provocatrices, parce qu'il s'agit vraiment d'une provocation, Dieu compte rappeler à son peuple une réalité importante et qui est très ancienne en réalité, très ancienne. C'est que les nations sont spectatrices de l'alliance. Les nations sont spectatrices de l'alliance entre Dieu et son peuple. Autrement dit, la relation particulière qui existe entre Dieu et son peuple se déroule aux yeux du monde. Le monde entier assiste à l'histoire de Dieu qui se constitue un peuple, qui intervient en faveur du peuple et parfois qui châtie son peuple. Le monde entier assiste à cette histoire, à cette relation qui se déroule sous ses yeux. Déjà lorsque Dieu était intervenu de façon puissante et miraculeuse pour libérer son peuple d'Égypte, vous vous souvenez, après qu'il soit sorti d'Égypte, très rapidement, Moïse va entonner un cantique qui lui vient comme ça spontanément. Il est tellement emballé par ce que Dieu a fait, il va chanter un cantique. Dans ce cantique, en pensant à ce que Dieu vient de faire pour son peuple, il dit, Exode 15, verset 14, « Les peuples l'ont appris et ils tremblent. » Les peuples l'ont appris, ils ont assisté à la scène et ils tremblent. Et puis ensuite, plus tard, lorsque les Israélites vont recevoir la loi de la part de Dieu qui leur est donnée du haut de la montagne au Sinaï, Moïse va leur faire comprendre aux Israélites que s'ils devaient se détourner de Dieu, si jamais ils devaient se détourner de Dieu, les conséquences seraient fâcheuses. Et il ajoute, je cite Moïse, « Toutes les nations diront, mais pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays ?» Pourquoi l'ardeur de cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance conclue avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Vous voyez que les nations sont spectatrices de l'alliance, et cela depuis le début, depuis l'Égypte, et même auparavant. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. Ce que Dieu est en train de faire dans ce texte, si vous voulez, c'est dans le texte d'Amos ici, c'est d'organiser une sorte de conférence de presse. Oui, il convoque les nations alentours. Il convoque les journalistes égyptiens et philistins, si vous voulez, à venir et il va faire le point avec eux sur l'état de sa relation avec le peuple élu. Ce n'est pas une nouveauté. Depuis le départ, la relation entre Dieu et son peuple est censée se dérouler aux yeux du monde. Depuis le départ, elle est censée occuper, si j'ose dire, la une des journaux depuis le départ. Même lorsque le peuple de Dieu n'était constitué que d'une modeste famille, Dieu a dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Voyez, les nations sont spectatrices de l'Alliance. Elles assistent à cette histoire qui se déroule entre Dieu et son peuple, à cette relation. C'est cela que Dieu veut rappeler dans un premier temps, dans ce verset 9. Pourquoi est-ce qu'il veut rappeler ça, à votre avis ? Pour que son peuple se rende compte qu'il occupe le devant de la scène et que le monde regarde. Le peuple de Dieu continue aujourd'hui d'occuper le devant de la scène. Ce n'est pas forcément en regardant les gros titres des journaux qu'on s'en rend compte. Mais notre vision du monde et de l'histoire ne doit pas être conditionnée par ce qu'on voit à 20h sur TF1 ou sur France 2. Notre vision du monde et de l'histoire doit être conditionnée par ce qu'on lit dans l'Écriture sainte, révélation spéciale de la part de Dieu, le Créateur, le Maître de l'histoire. Et nous y voyons que pour Dieu, c'est l'Église, aujourd'hui, qui est censée être le centre de l'attention du monde. L'Église occupe le devant de la scène. Le peuple de Dieu est sous les feux de la rampe. Est-ce que vous saviez que que le monde est censé vous observer. Est-ce que vous saviez que, en tant que chrétien, vous vivez sous les feux de la rampe parce que vous appartenez au peuple de Dieu et parce que la relation entre Dieu et son peuple est un témoignage offert au monde entier? Est-ce que vous le saviez? Cela doit nous faire réfléchir à ce que nous appelons notre vie privée, hein, entre guillemets. Une vie privée qui, pour Dieu, n'est pas si privée que ça. Cela doit nous faire trembler dans nos bottes un peu, hein, de savoir que nous sommes sur le devant de la scène, que nous avons une place aussi visible et importante dans l'histoire dont Dieu est le maître. Et cela d'autant plus que la suite du texte n'est pas là pour nous rassurer. Alors regardons plutôt. Verset 10. Après la première provocation du verset 9, Dieu va rajouter une deuxième provocation. Il a donc, dans un premier temps, convoqué les ennemis d'Israël, hein, les Égyptiens, les Philistins, il les a convoqués, il leur montre la grande corruption qui règne au milieu de son peuple, du peuple qui porte son nom. Et ensuite, il va faire cette annonce solennelle et fracassante. Verset 10. « Ils ne savent pas agir avec droiture, oracle de l'Éternel. » Vous imaginez ? Dieu a convoqué les ennemis de son peuple et il leur dit aux ennemis, au sujet de son peuple, « Ils ne savent pas agir avec droiture, oracle de l'Éternel. » Dieu est en train de déclarer au monde que son peuple ne sait pas faire le bien. Et il en veut pour preuve la grande cupidité des Israélites dans ce texte qui est rendu manifeste par la violence et la rapine et tous ces revenus malhonnêtes entassés dans leur donjon ou dans leur palais, selon certaines traductions. Devant les nations païennes, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de confesser les péchés de son propre peuple. Il est en train de confesser les péchés de son peuple devant les nations païennes. Il est même en train de révéler en plein jour les mauvaises intentions du peuple, les intentions mauvaises de leur cœur et les fruits détestables de leurs péchés qui étaient censés rester cachés à l'intérieur de leur donjon. Le produit de la violence et de la rapine était entassé à l'intérieur de ces donjons solides et secrets, vous voyez. Et Dieu est en train de révéler ça en plein jour. On a l'impression que Dieu est en train de désavouer son peuple. Mais pas du tout. Pas du tout, en fait. Dieu ne désavoue pas son peuple, mais il désavoue les actes de son peuple. Comprenez ? Dieu ne se désolidarise pas de son peuple, mais il se désolidarise des péchés de son peuple. Tout le monde est en train d'assister, regarde Samarie, voit la corruption du peuple. Tout le monde constate que le peuple de Dieu est injuste, mais Dieu reste juste et il le fait savoir publiquement. C'est mon peuple, mais ils ne savent pas agir avec droiture, oracle de l'Éternel. Il n'y a rien de pire qu'un parent qui, en public, okay, prend la défense de son enfant alors que celui-ci a fait une énorme bêtise. Imaginez la maîtresse qui vient vous voir à la sortie de l'école, si vous avez des enfants, ou pas, imaginez quand même. La maîtresse vient vous voir à la sortie de l'école pour vous dire que votre enfant a jeté des boulettes de papier en classe, a cassé la règle de son voisin et a tenté de voler des livres à la bibliothèque. Quelle devrait être votre réaction en tant que parent juste? En tant que parent juste. Vous l'avez puni pour ça? Mais c'est rien du tout! Le pauvre! Il n'a rien fait de mal! Ne devriez-vous pas plutôt dénoncer vous aussi, devant la maîtresse, les bêtises de votre enfant? En le faisant, vous ne désavouez pas votre enfant, mais vous vous désolidarisez de ses actes et vous montrez à la maîtresse que vous êtes un parent juste et donc que votre enfant est en de bonnes mains. De la même façon, Dieu montre au monde dans ce texte qu'il est juste. Il montre aux Philistins, il montre aux Égyptiens qu'il est juste. Il reconnaît publiquement les fautes de son peuple. Il confesse au monde le péché de son peuple. Jusqu'au produit de la cupidité abritée dans leur donjon, vous savez, dans l'obscurité, un petit peu retiré des regards. Dieu le confesse au monde, il le montre au monde. Pourquoi est-ce qu'il fait savoir à son peuple qu'il est en train de révéler leur péché au monde? Pourquoi est-ce qu'il le fait savoir à son peuple? Pour que le peuple se rende compte que son injustice ne peut en aucun cas écorner la justice de Dieu. Je répète. Il montre cela au peuple pour que le peuple se rende compte que son injustice, l'injustice du peuple, ne peut en aucun cas écorner la justice de leur Dieu, la justice de Dieu. Autrement dit, Dieu ne cesse pas d'être juste aux yeux du monde, quand bien même son peuple serait injuste. Okay? Autrement dit, la Bible ne cesse pas de dire ce qu'elle dit, quand bien même je désobéirais à ce qu'elle dit tout en portant le nom de chrétien. La Bible ne cesse pas de dire ce qu'elle dit, quand bien même je désobéirais à ce qu'elle dit tout en portant le nom de chrétien. Quand bien même je ne serais pas d'accord avec ce qu'elle dit, la Bible ne cesse pas pour autant de dire ce qu'elle dit. La justice de Dieu ne cesse pas pour autant d'être manifestée au monde, quand bien même son peuple serait injuste. Cette réalité doit nous pousser à une grande lucidité et aussi à une grande humilité, n'est-ce pas ? On nous regarde, on nous regarde. La Bible est accessible aux non-chrétiens. La Bible est accessible aux païens. La Bible est accessible aux ennemis de l'Église, aux ennemis de Dieu. Elle leur est accessible. Elle n'est pas réservée aux chrétiens. Et Dieu y manifeste sa justice. Et on nous regarde, nous qui portons le nom de chrétiens. Et Dieu fait savoir au monde que nos péchés, même ceux que nous protégeons derrière le rempart de notre vie privée, entre guillemets, Dieu fait savoir au monde que nos péchés contredisent sa justice. Et les gens nous regardent. À nous d'être honnêtes et d'admettre ouvertement le regard que Dieu porte, d'après la Bible, sur toutes ces choses que nous entassons dans nos donjons. Il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un péché un péché. Dieu le fait de toute façon. Il ne va pas arrêter de le faire. À nous de l'admettre en ce qui concerne ces choses dans notre vie que Dieu appelle péché. C'est le point de départ de la repentance. Mais regardons la suite et la fin du texte. Parce que malheureusement, le peuple de Dieu, dans ce contexte, n'est pas vraiment enclin à la repentance. Il n'est pas vraiment enclin à la repentance. Ça fait plusieurs siècles que Dieu avertit son peuple et l'invite à revenir à lui dans l'humilité et la repentance. Mais dès le début de la prophétie d'Amos, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on était encore dans le chapitre 2, nous avions appris que c'en était assez. Que la coupe avait débordé et que la patience de Dieu, sa grande patience, avait atteint son terme. À cause de 3 péchés d'Israël et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Cette fois, c'en est assez. Les Israélites ont dépassé les bornes en allant jusqu'à interdire aux prophètes d'exercer leur ministère, leur métier, qui est de parler de la part de Dieu. On avait vu ça il y a quelques temps. Ils avaient interdit aux prophètes même de parler de la part de Dieu. Alors Dieu annonce à son peuple la venue d'un jugement qui sera visible aux yeux de tous. Un jugement qui sera visible aux yeux de tous. À travers l'invasion d'un peuple ennemi, c'est ce qu'on a découvert au verset 11. À travers l'invasion d'un peuple ennemi, Dieu va littéralement dépouiller son peuple de toute sa force et de toutes les richesses iniques entassées dans leur donjon. Dieu va exercer son jugement en public. Dieu va exercer son jugement en public. Normal. Normal puisque les nations sont spectatrices de l'Alliance. Normal puisque Dieu, qui ne cesse pas d'être juste, doit condamner devant tout le monde l'injustice de son peuple. Et une trentaine d'années après la prophétie d'Amos, on apprend que ça s'est réalisé. Les troupes assyriennes sont venues. Elles ont assiégé Samarie pendant 3 ans. Imaginez, 3 ans de siège. Le temps pour le peuple d'épuiser toutes ses ressources, tous ses produits de la violence et de la rapine entassés dans leur donjon, et de tomber finalement totalement affaibli entre les mains de l'ennemi. Le monde regarde. Les Philistins et les Égyptiens sont montés sur les montagnes et ils assistent à la scène. Ils observent le peuple de Yahvé, le peuple de l'Alliance, ou de Jéhovah pour ceux qui préfèrent, se faire déporter en grand nombre dans une terre étrangère. Ils observent et ils voient le royaume d'Israël être rayé de la carte. Quelques générations plus tard, ce sera d'ailleurs au tour du royaume du Sud. Rappelez-vous, il y a le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Sud aussi, ce sera son tour, le royaume de Juda. Dieu a dépouillé son peuple. Dieu a dépouillé son peuple, conformément à ce qu'il avait annoncé. Il l'a fait aux yeux de tous. Il a exercé son jugement en public. Et vous savez, 600 ans plus tard, à peu près, après le temps d'Amos, l'époque d'Amos, le décor est pratiquement le même. les Babyloniens ont laissé la place aux Perses, les Perses aux Grecs et les Grecs aux Romains. Mais pour Dieu, son peuple occupe toujours le devant de la scène, ça n'a pas changé. Et les nations qui passent posent cette question que Moïse avait prédit qu'elle poserait. Pourquoi ? Pourquoi un pays dans un tel état ? Pourquoi un peuple éparpillé ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont rejeté l'alliance. Parce qu'ils ont été infidèles à leur Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Mais si Dieu a désavoué le péché de son peuple, il n'a pas désavoué son peuple. Conformément à ses promesses, Dieu envoie un libérateur. Et ce libérateur, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais chose surprenante, plutôt que d'organiser une révolution, ce libérateur va totalement s'identifier au peuple dans sa faiblesse. Il va se dépouiller lui-même comme son peuple a été dépouillé. Il va prendre la condition d'un esclave comme son peuple était assujetti aux puissances de l'époque. Et il va s'humilier lui-même au point de prendre la place du peuple sous le jugement de Dieu. Et devant tout le monde, élevé sur une croix romaine, aux yeux de tous, Jésus-Christ, Dieu le Fils, va succomber sous le poids des péchés, de péchés qui ne sont pas les siens. Dieu prend sur lui, en public, le jugement ultime que méritaient les péchés de son peuple. Et sur la croix, lors d'une exécution publique, dont témoignent l'histoire, la Bible et tous les chrétiens depuis des siècles, Dieu montre, aux yeux de tous, qu'il condamne l'injustice de son peuple, mais qu'il ne désavoue pas son peuple. Et on aime tous ces histoires formidables, n'est-ce pas, où les gentils se retrouvent presque anéantis sous les assauts de l'ennemi, mais où soudain, par un acte héroïque, un libérateur arrive et retourne totalement la situation. On adore ces histoires. C'est le genre d'histoire qui nourrit la plupart des scénarios de films qui sont des succès populaires aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le héros de l'histoire gagne une victoire d'autant plus éclatante sur l'ennemi que l'ennemi exultait d'avoir pensé remporter la bataille par le déploiement de sa puissance maléfique, n'est-ce pas ? Nous aimons ces histoires. Bien, lorsque Jésus meurt sur la croix, l'ennemi exulte. L'ennemi exulte, il pense avoir remporté la bataille ultime. Mais la victoire remportée par Jésus, le libérateur, au profit de tous ceux qui se confient en lui, cette victoire éclate en plein jour lorsqu'il sort triomphant du tombeau et lorsqu'il apparaît vivant à des centaines de personnes qui, à leur tour, vont témoigner au monde de cette totale victoire sur le péché et sur la mort. Qu'est-ce qu'on aime ces histoires ? Parce qu'elles résonnent au plus profond de nous, n'est-ce pas ? Dieu a totalement retourné la situation. Le peuple était dépouillé, aux yeux de tous, sous l'effet du juste jugement de Dieu. Et l'ennemi exultait. Mais l'apôtre Paul explique dans une épître qu'en Jésus, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a cloué la dette de nos offenses à la croix. Il a cloué à la croix. Et il continue en disant que il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, c'est-à-dire les ennemis de son peuple. Il les a dépouillés et il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Dieu exerce son jugement en public. Dieu exerce son jugement en public. La croix est un événement public. Dieu a pris la place de son peuple devant tout le monde. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit dans un autre passage, « C'est Jésus que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. » Événement public, afin de montrer sa justice. « Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Voyez, à la croix, Dieu dénonce et condamne et juge les péchés de son peuple, mais il ne désavoue pas son peuple. Il s'identifie à lui et il prend sur lui pour que tous ceux qui se confient en Jésus-Christ puissent recevoir le pardon de leurs fautes. Le texte que nous avons lu dans Amos, donc, nous a rappelé que Dieu avait conçu l'histoire du monde pour que son peuple occupe le devant de la scène. Les nations sont spectatrices de l'Alliance. Dieu dénonce devant tout le monde les péchés de son propre peuple. Et Dieu exerce son jugement en public. Pour Dieu, ceux qui occupent les gros titres des journaux, si ce n'est pas ici-bas, en tout cas c'est le cas au paradis, ceux qui occupent les gros titres des journaux, ce qui compte dans le monde et dans l'histoire, c'est d'abord la relation qu'il y a entre lui et son peuple. C'est ça qui se déroule sur le devant de la scène. Tout ce qu'il a réalisé, tout ce que Dieu a réalisé dans l'histoire au profit de son peuple, il l'a fait aux yeux de tous. Il a appelé Abraham, il lui a fait des promesses, il a multiplié sa descendance, il a libéré son peuple d'Égypte, ensuite il lui a donné sa loi et il a châtié son peuple pour son infidélité et ensuite il est venu en personne libérer son peuple de ses péchés. Il l'a fait aux yeux de tous, au vu et au su du monde entier. Et aujourd'hui encore, l'Église occupe le devant de la scène, que vous le sachiez ou non. Que vous soyez d'accord ou non, que vous le vouliez ou non, l'Église occupe le devant de la scène encore aujourd'hui pour Dieu. Alors, quelle est votre perspective sur le monde, mais aussi sur votre vie à vous? Vous êtes venu à l'Église et vous avez assisté à travers le témoignage de l'histoire et de l'Écriture, vous avez assisté à un événement public, vous avez assisté à travers le témoignage de l'histoire et de l'Écriture au dépouillement de l'ennemi qui a été publiquement livré en spectacle, selon les paroles de l'apôtre Paul. L'ennemi a été vaincu par la croix et par la résurrection de Jésus-Christ. Vous avez assisté par le témoignage de l'Écriture, vous avez assisté au triomphe de Jésus sur le mal et sur la mort. Alors est-ce que vous avez déposé les armes devant ce prince victorieux qui est intervenu publiquement en faveur de tous ceux qui se confient en lui? Est-ce que vous avez déposé les armes devant lui? En tant que chrétien, est-ce que vous saviez que le monde vous regardez, que les nations assistent à ce qui se passe? Saviez-vous que votre relation à Dieu était exposée au feu de la rampe, et cela pour le meilleur comme pour le pire? À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est Jésus qui dit ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un peu plus loin. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Le monde regarde. Le monde observe. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ajoute-t-il. Si vous êtes un chrétien, si vous appartenez au peuple de Dieu, vous n'êtes pas un figurant dans l'histoire du monde, mais vous êtes un personnage principal. Dieu n'a pas égard aux frontières de votre vie privée, mais il vous invite, il nous invite à vivre en tant que chrétien, comme si nous étions le centre de l'attention du monde entier. Les enjeux sont immenses, car il s'agit du témoignage devant le monde, à la justice de Dieu et à sa grâce. Amen.